Frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce rendez-vous de la grâce avec notre Père Céleste. Son amour, sa grâce et sa paix nous ont précédés. Puissions-nous les accueillir avec reconnaissance et nous réjouir en sa présence. Ce matin, le Seigneur nous invite à changer notre regard sur ceux qui croisent notre route afin que nous puissions les soulager et les aider au nom du Seigneur. Mais n'oublions pas que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous commençons donc ce culte que nous rendons à Dieu par confesser notre foi. Oui, nous croyons en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. C'est le cantique de J'aime 371. Seigneur Dieu notre Père, gloire à toi le Créateur de tout l'univers. Et cet univers t'appartient. Et comme l'être humain que tu as placé sur cette terre, dans cet univers, n'est qu'un gérant. Louange à toi qui est venu vers nous en la personne de Jésus pour apporter à l'humanité la réconciliation et la vie éternelle. Tu nous appelles à être ton Église, pour célébrer ta présence, pour annoncer ton pardon, pour aimer et servir notre prochain, pour rechercher la paix ainsi que la justice, pour résister au mal en nous et autour de nous, et rechercher le règne de Dieu. Nous croyons et nous proclamons que tu établiras bientôt sur le monde entier ton règne éternel de vérité et d'amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus, qui est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité et qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui nous a incorporés au corps du Christ pour faire de nous tous une communauté de sœurs et de frères heureux de vivre ensemble pour le Dieu unique et véritable dans l'attente de la résurrection. Dispose nos cœurs, Seigneur, à te rendre un culte digne d'un Dieu comme toi. Notre prière, nous te la portons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le psalmiste nous invite à entrer dans la joie pour louer, pour adorer notre Seigneur. Et nous faisons notre sa prière. Mon âme, bénis l'Éternel, que tous ceux qui ont en moi bénissent son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Dans la ligne droite de ce psaume, je vous invite à chanter ensemble « Gloire à son nom ».
Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé.
À tout jamais. captivé par sa gloire sans fin.
Prions. Dieu saint, grand et redoutable, notre Père, en Christ, tu as créé toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car tu as voulu que toute plénitude habite en lui. Tu as voulu tout réconcilier avec toi par le sang de sa croix, et maintenant tu l'as souverainement élevé, tu l'as fait siéger à ta droite dans les cieux, au-dessus de toute domination et de toute puissance, de toute autorité, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse à ta gloire qu'il est roi et seigneur. Dieu notre Père, nous nous associons à toute l'armée céleste pour chanter encore en l'honneur de l'agneau qui a été immolé et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter « Gloire, gloire à l'agneau ».
Gloire
Écoutons maintenant, mes frères et sœurs, comment le Seigneur nous indique le chemin de la vie. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce passage est tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, le verset 40. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu te dévoiles à nous dans l'humanité la plus laide, la plus défigurée, notamment dans les gens qui ont faim, soif, malades ou en prison. Nous avons eu difficile à te reconnaître à travers ceux qui leur ressemblent et qui ont croisé notre route. Aie pitié de nous, car nous n'avons pas agi comme il convenait à leur égard. Père Saint et juste, toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Fais-nous la grâce que par ton Esprit Saint, nous nous laissions sanctifier. Car c'est par lui que tu recrées les êtres nouveaux, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Nous accueillons avec reconnaissance ces paroles de grâce tirées du psaume. Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui guérit toutes mes infirmités. C'est lui qui arrache ma vie à la tombe. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Voici maintenant l'espace accordé aux enfants au cours de ce culte, et c'est David qui leur transmet un message de la part du Seigneur.
Bonjour les enfants. La semaine passée, je vous avais parlé des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Vous vous en rappelez ? À cette occasion, nous nous étions concentrés sur le premier de ces commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et pour l'illustrer, je vous avais raconté l'histoire d'un petit garçon qui venait de déménager et qui devait ranger sa chambre. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un autre de ces commandements. En fait, j'aimerais vous parler du dernier des 10 commandements que Dieu a donné. Il dit ceci: tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Est-ce que vous savez ce que le mot convoiter signifie? Le mot convoiter veut dire désirer très très fort quelque chose qui ne nous appartient pas. Au point même que cette chose occupe continuellement nos pensées et que ça en devienne une maladie, une obsession. La convoitise peut être en rapport avec un objet en particulier, un vêtement ou un jeu que nous avons vu chez quelqu'un d'autre. Mais elle peut également être en rapport avec l'apparence d'une personne, ou la vie qu'elle mène, ou encore les amis qu'elle a, ou encore ses capacités, comme par exemple son talent pour le chant ou pour le sport. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse à cette convoitise. Il suffit pour cela de regarder toutes les publicités ou les émissions qui passent à la télévision. Elles nous donnent parfois l'impression que pour réussir notre vie, il faut absolument posséder certaines choses, ou qu'il faut devenir quelqu'un que tout le monde adore ou admire. Mais est-ce vraiment le plan de Dieu pour nous? Est-ce que c'est cela qui nous donnera de la valeur à ses yeux? Voici une petite histoire qui nous fera réfléchir et qui nous apportera, je l'espère, des réponses. Un jour, Madame Tortue observait les oiseaux. Elle en était très jalouse, car les oiseaux pouvaient voler, alors qu'elle ne le pouvait pas. Oh là là, que n'aurait-elle pas fait pour pouvoir voler elle aussi? Que ce serait amusant! Elle alla s'en plaindre à Madame Grenouille. « Pourquoi les oiseaux peuvent-ils voler et pas moi ? » demanda-t-elle. « Mais je ne vole pas non plus !» répondit Madame Grenouille. « Mais je ne m'en plains pas. Tu vois, nous devons nous réjouir de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Chacun de nous a des dons que les autres n'ont pas !» expliqua Madame Grenouille. « Quel don ai-je ? » s'enquit Madame Tortue. « Comment pourrais-je être heureuse alors que je ne peux pas voler ?»« C'est vrai que tu ne peux pas voler. Mais regarde, sur ton dos, tu as une belle carapace, forte et solide, qui te sert de maison et de moyen de défense, que d'autres animaux n'ont pas. Sois-en reconnaissante et réjouis-toi !» dit Madame Grenouille. « Grâce à elle, personne ne peut t'ennuyer. » Tu n'as pas besoin de voler pour fuir tes ennemis et tu n'as pas besoin de partir loin pour trouver de la tranquillité. » Mais Madame Tortue n'était pas satisfaite de ses conseils. Elle voulait voler. Elle trouvait que c'était tellement trop stylé, trop tendance. En plus, tout le monde était toujours admiratif devant le vol des oiseaux. Elle alla donc voir les oiseaux pour leur demander leur aide. « Que pouvons-nous faire pour toi ?» lui demandèrent les oiseaux. « Donnez-moi juste quelques plumes !» répondit Madame Tortue. « Je les collerai à mes pattes et je pourrai ainsi très bien voler. »« Oh là là, c'est dangereux !» avertirent les oiseaux. « Il se pourrait que le vent les arrache. Lorsque tu te seras élevée très haut. Tu n'es pas faite pour ça, voyons. Qui t'a mis dans la tête que tu devais absolument voler ?» Mais rien ne pouvait décourager Madame Tortue. « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi quelques plumes, je ferai très attention !» supplia-t-elle. Ainsi donc, malgré leur bon sens, les oiseaux finirent par céder et par donner quelques plumes à Madame Tortue. Et avec sa salive, hop, elle en colla à ses pattes avant, à ses pattes arrière et sur le dos de sa carapace. Elle battit alors de ses pattes rapidement et hop, elle s'envola tel un oiseau. Elle traversa une brousse, s'éleva au-dessus des arbres, puis se dirigea vers le ciel bleu. Le vent soufflait fortement sur ses pattes et sur sa carapace. Il était si fort, si violent, que les plumes se mirent à se décoller une à une. Au début, Madame Tortue ne remarqua rien, mais soudain, elle se rendit compte qu'elle perdait beaucoup de plumes et beaucoup d'altitude. Puis tout d'un coup, elle ne put plus voler et elle tomba comme une pierre. Alors vite, vite, pendant sa chute, elle se réfugia dans sa carapace. Et puis, La tortue tomba si vite et si fort que lorsqu'elle atteignit le sol, la terre trembla. Et de nombreux animaux vinrent voir ce qui avait fait tout ce boucan. C'est alors que, toute penaude, la tortue sortit sa petite tête de sa carapace devant l'air ahuri de tous les animaux de la forêt. C'est alors qu'elle se dit « Ben ça alors, elle est rudement bien cette carapace que Dieu m'a donnée. Sans elle, alors qu'il est, je serais devenue de la compote. » Et depuis lors, jamais plus, elle ne voulut être autre chose qu'elle-même. Vous voyez les enfants, avec cette histoire, je voulais vous faire passer le message suivant. Dieu nous aime, il aime chacun d'entre nous tel que nous sommes. Il ne demande pas que nous ressemblions à nos voisins, à nos amis, ou à l'une ou l'autre célébrité que nous voyons sur nos écrans pour nous aimer. Il veut que nous ressemblions à nous-mêmes et que nous nous aimions tels que nous sommes. Nous sommes toutes et tous des créatures merveilleuses et personne ne réalisera mieux que toi ce que Dieu a voulu que tu accomplisses. Car finalement, ce qui compte dans la vie, c'est cela. Donner sa vie à Dieu et accomplir ce qu'il souhaite que nous fassions. C'est cela, réussir sa vie. Amen.
Les amis, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de nous avoir créés et d'avoir fait de nous les personnes que nous sommes. Merci pour l'histoire que nous venons d'écouter, qui nous révèle encore ton commandement. Aide-nous à t'honorer, à être fiers de ce que nous avons et de qui nous sommes. Aide-nous à ne pas envier les copains, les personnes qui nous entourent, mais plutôt de dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais encore aujourd'hui et ce que tu feras encore demain. Merci Père éternel pour la famille que tu nous as donnée, pour les frères, les sœurs, les amis que tu nous as donnés. Aide-nous à vivre Seigneur en communion et à te rendre grâce chaque jour à travers ce que nous faisons. Amen.
Nous avons maintenant le privilège d'écouter la parole de Dieu, mais au préalable, je vous invite à prier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Seigneur notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errances. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. La lecture ce matin sera faite par Nathalie dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Versets 31 à 46.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont : Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Ou étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ? Le roi leur répondra : Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis se retournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour : Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif ? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison ? Et avons-nous négligé de te rendre service ? Alors il leur répondra : Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen.
Servir les plus petits des frères de Jésus-Christ. J'ajouterai même des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, avec cette parabole des brebis et des boucs, s'achève le grand discours de Jésus sur la fin des temps, sur sa venue prochaine, sur comment ceux qui se réclament de lui doivent se comporter pendant ce temps d'attente, et sur comment l'Église doit vivre cette attente. Si le sens général de cette parabole ne peut pas nous échapper, notamment en ce qu'il nous exhorte à visiter, à soigner, à consoler, à habiller, à nourrir et à désaltérer ceux qui en ont besoin, ou plus simplement, en tant qu'elle nous invite à une action concrète, pratique et efficace, néanmoins, elle nous gêne quelque peu parce qu'elle semble contredire deux points de la foi chrétienne que nous considérons comme essentiels, à savoir, premièrement, le Dieu de miséricorde est le Dieu d'un amour inconditionnel. Cette parabole nous présente Dieu comme un juge impitoyable qui exerce son jugement sans possibilité de recours aucun, parce qu'il ordonne que certains soient jetés dans le châtiment éternel. Deuxième point essentiel de la foi chrétienne que nous confessons et qui semble être contredit par cette parabole, c'est que le salut est une grâce. Et cette parabole suscite une sorte de malaise parce que le critère de jugement est tout à fait autre. Et les églises issues de la réforme, dont la nôtre depuis plus de 4 siècles, posent comme fondement de leur compréhension du salut un don de Dieu aux pécheurs. Ainsi, l'apôtre Paul l'exprime très clairement dans ce verset de Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Et dans cette parabole, que trouvons-nous? Les élus sont ceux qui ont accueilli les étrangers, visité les malades et les prisonniers, nourri les affamés. Nous voici au cœur d'une bonne théologie des œuvres. On gagne son salut en faisant de bonnes œuvres, de bonnes actions. Avouons que c'est quelque peu gênant. Mais cette parole est dans l'Écriture. Alors, pour répondre à ces deux malaises, il convient d'abord de situer cette parabole à l'intérieur de l'évangile de Matthieu. Ensuite, de tenter de comprendre quel est le message que le Seigneur veut transmettre à travers son dernier discours et particulièrement dans cette parabole, cela à la lumière de l'enseignement central de l'Écriture. Venons-en au contexte. L'évangile selon Matthieu est organisé autour de 5 grands discours. Le dernier de ces discours comprend les chapitres 24 et 22, qu'on appelle généralement « discours sur la fin des temps », qui se conclut par cette parabole. Le chapitre 24 comprend ce qu'on appelle l'Apocalypse de Matthieu, c'est-à-dire le dévoilement d'un monde bouleversé et abîmé par les guerres, les famines, les tremblements de terre, avant le second retour du Seigneur. Mais au cœur de ce monde, qui ressemble beaucoup au nôtre, le message central du chapitre 24 est un message d'espoir. C'est celui-ci. Dieu n'est pas absent de ces événements. Dieu n'a pas abandonné sa création. Il est proche. Il revient. Puis, nous sommes toujours dans cette visite du contexte, puis dans l'attente de ce retour, 3 paraboles au chapitre 25 nous indiquent comment attendre ce retour, sans doute pas dans la passivité. La parabole des 10 vierges, que nous avons vue précédemment, nous prévient sur l'éventuel retard quant au retour du Seigneur et surtout la nécessité d'être toujours prêt. Cette parabole des 10 vierges nous invite à la sagesse et à vivre comme si le Christ revenait maintenant, tout en prévoyant qu'il peut aussi ne revenir que plus tard. Il faut être prêt à durer. Et pour cela, être continuellement rempli de l'Esprit Saint et construire le royaume de Dieu pierre après pierre, afin qu'il soit encore debout demain. Quant à la parabole des talents, celle que nous avons méditée le dimanche dernier, elle nous invite à oser, à être créatif, inventif, à prendre des risques pour faire croître le capital, les dons que Dieu nous a confiés. Ce retour du Christ ne doit pas nous paralyser, mais au contraire, mu par l'amour, il rend plus urgent et plus nécessaire l'éclosion et la croissance de nos talents au service de l'Évangile. Quant à la parabole des boucs et des brebis, celle d'aujourd'hui, elle nous invite à ne pas oublier le service du prochain, et tout particulièrement le service des plus pauvres, des malades, des prisonniers, des affamés, des étrangers. La spécificité de cette parabole ne doit pas nous faire oublier toute l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ pour l'humanité. Du reste, tout texte est à comprendre à la lumière de l'enseignement central de la Bible. Et il est important que nous puissions rappeler de nouveau cet enseignement central de la Bible à la lumière de laquelle tous les autres textes doivent être lus. Ce message est celui-ci. Dieu est amour. En Jésus-Christ, il offre son salut gratuitement aux humains. C'est donc une œuvre de grâce. C'est incontestable. Il n'y a pas de condamnation éternelle pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est très important de le souligner. Le salut est et demeure une grâce, un cadeau gratuit. À cause de cela même, nous sommes invités à produire des œuvres dignes de la nouvelle vie en Christ. Les œuvres à produire sont donc la conséquence de cette grâce reçue. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Les œuvres de chrétiens seront jugées par le juge suprême, pas pour être jetées en enfer. Et par cette parabole, le maître nous invite à être conséquents avec notre vocation, c'est-à-dire à produire des fruits dignes de notre nouvelle vocation. Examinons la parabole, du moins dans ses grandes lignes. Il est question, dans cette parabole, du jugement. Le Seigneur séparera les sujets en deux groupes, les brebis et les boucs. Puisque le jugement semble au cœur de la parabole, que signifie-t-il? Le jugement dont il est question ici ressemble à une relecture de l'existence de chacun, à un examen de l'existence de chacun, et nous invite à reconsidérer les choses de notre vivant. Et Jésus nous donne la grille de cette lecture. Notre vie aura porté du fruit lorsqu'elle aura été tournée vers ce que Jésus appelle les plus petits de mes frères. Qui sont ces plus petits? Le judaïsme en dressait la liste. Ce sont les malades, les prisonniers, les orphelins, les étrangers, les pauvres, etc. Et Jésus reprend librement cette énumération. Aujourd'hui comme hier, le petit, c'est la personne dépendante qui ne peut s'en sortir seule parce que les contraintes qui pèsent sur elle sont insupportables ou parce qu'elle n'a pas en elle les ressources suffisantes. Ainsi, le petit, ça peut être l'étranger, celui qui est sans défense, la personne âgée, isolée ou malade, celle qui est sans force, sans béquille, sans quelqu'un sur qui s'appuyer. Ça peut être une personne endettée ou sans travail, une personne dépressive ou incapable de s'insérer socialement. Ce peut être l'un d'entre nous, comme temporairement nous pouvons passer par un moment difficile de notre existence. Jésus, disais-je, est juge parce qu'il met ainsi en lumière la portée profonde de nos actes. Chacun d'entre eux, quel que soit le champ d'application, fait avancer ou reculer le royaume de Dieu, selon qu'il sert ou rejette l'un de ses plus petits. Pour Jésus, selon cette parabole, ce qui subsistera de mon moi, de ma vie, sont ces instants où je me suis tourné vers ces petits. Ainsi, je le crois, la seule condamnation à craindre n'est pas une punition éternelle, car ceux qui ont placé leur confiance en Christ mort et ressuscité en sont quittes. Mais la découverte que nous sommes constamment passés à côté de ces petits à servir et à aimer, et qu'ainsi nous avons vécu pour rien. Pour aider les interlocuteurs de Jésus à comprendre ce qu'il dit, Jésus emploie souvent l'image de la géhenne ou du feu qui ne s'éteint jamais. La géhenne, souvenons-nous, c'était la décharge publique de Jérusalem et le feu permanent permettait de réduire la masse des objets jetés dans cette décharge. Ainsi, être symboliquement jeté à la géhenne, c'est savoir que sa vie n'a pas été plus utile aux yeux de Dieu qu'un objet que l'on abandonne parce qu'il ne sert à rien. Par cette description du jugement, Jésus exhorte donc à prendre au sérieux notre vie. Car s'il est dit que nous sommes pardonnés et aimés, il n'est pas certain que notre vie porte aujourd'hui et toujours des fruits. C'est donc une invitation à prendre cette vie au sérieux et à produire des fruits dignes de notre vocation. Frères et sœurs, la certitude de l'avènement de Christ ressuscité et de ma propre résurrection ne me conduit pas au fatalisme, à la passivité, ni à la démission. Mais cette espérance qui me fera tenir un jour devant Jésus-Christ dans sa fonction de juge me conduit à aimer cette vie, à vivre pleinement chaque instant que Dieu m'accorde avec un réel désir d'être témoin de l'amour, de la grâce et du pardon. Agir en faveur des petits, qui sont les frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est aller à contre-courant de la pensée majoritaire et dominante de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, dans la pensée de notre société, ont droit au chapitre seuls les plus forts, les plus beaux, les plus valides, les plus intelligents, les riches, ceux qui possèdent. C'est se tourner vers les petits, les plus petits, ceux qui sont en situation de fragilité, que Jésus nous demande de faire. L'Église, c'est-à-dire toi, moi et nous, devrait davantage être attentifs à ces petits, ces plus petits frères et sœurs de Jésus-Christ. Notre action n'est-elle qu'une goutte d'eau dans un océan de misère? Non, ce sont des petits cours d'eau qui font des fleuves. Agir selon ses moyens, selon ses capacités est ce qui est attendu de chaque disciple du Christ et de l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous sommes partis d'un malaise. Dieu est-il juge ou miséricordieux? Est-il toujours le Dieu du pardon inconditionnel? Le salut est-il offert par grâce ou par les œuvres? Jésus, en réalité, n'oppose pas ces deux pôles. Au contraire, il les met en relation. Il les tient en tension. Ainsi, le salut demeure un don gratuit de Dieu aux hommes. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ce cadeau est accueilli au moyen de la foi. Cependant, la vraie foi en Christ appelle au service du petit. Et ce service me rapproche du Christ. Il ne s'agit pas de servir pour obtenir le salut, puisqu'il m'est offert. Je peux alors, au nom du Christ, comme conséquence logique de ce salut reçu, servir pour soulager les pauvretés et ainsi révéler le Christ au monde. Je n'ai pas besoin de remuer le ciel entier, de remuer la terre entière, afin que mon action soit la plus médiatisée. Mais j'ai à agir dans ma sphère de vie, dans une sphère humaine. Celui pour qui je le fais le saura certainement. Et je pense que c'est l'essentiel. C'est à cela qu'il nous invite maintenant. Le message central de toutes ces paraboles, ce n'est pas le jugement à venir, mais la façon dont ici et maintenant, dans le présent, nous vivons l'appel et l'attente de Dieu. C'est la responsabilité que nous avons ici et maintenant de changer les choses, de nous convertir, de changer nos mentalités et partant de poser des actes concrets ici et maintenant, de vivre pleinement cette vie-ci qui nous est donnée. Car le royaume de Dieu est déjà présent en germe, tout en étant encore à venir quant à son déploiement plénier. Si nous vivons ici et maintenant comme le Seigneur nous y invite et que nous le faisons dans la confiance, dans la reconnaissance, ce moment de jugement ne sera pas une condamnation pour nous. Alors que nous reste-t-il à faire ? Et il nous reste à nous mettre au travail, mais avec l'aide de Dieu. Seigneur, puisses-tu par le Saint-Esprit poursuivre en chacun de nous, dans ton Église, ton œuvre de conversion, de bouleversement, de sanctification, de salut, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs, unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour sans limite qui nous a offert le salut gratuitement par Jésus-Christ. Nous n'osons même pas imaginer ce que nous serions sans ta grâce. Nous te louons pour ton amour prévenant. En effet, en attendant ta seconde venue en gloire, le message principal des dernières paraboles n'est pas le jugement à venir, mais la façon dont tu nous invites à vivre ton appel et ton attente dans le présent. C'est pourquoi nous te prions afin que tu donnes à ton Église et à tes disciples la sagesse de vivre comme si le Christ revenait maintenant, tout en prévoyant qu'il peut aussi venir un peu plus tard. Veuille leur donner d'être prêts à durer en vivant continuellement remplis du Saint-Esprit et de participer à l'édification du règne de Dieu. Que pendant cette période pandémique, ils soient porteurs de l'espérance. Nous te prions, Seigneur, qu'en attendant ton retour en gloire, ton Église et tes disciples osent être créatifs et prendre des risques pour faire croître le capital, les dons que tu leur as confiés. Aide-les à comprendre l'urgence et à se consacrer dès lors à ce qui est essentiel. Nous te prions, Seigneur, d'accorder à ton Église et à tes disciples la grâce de ne pas oublier le service des petits, tout particulièrement des plus pauvres, des plus âgés, des malades, des prisonniers, des étrangers, des chercheurs de la vérité, de tous ceux qui cherchent le sens à leur existence. Père, nous te confions tous les nôtres, ceux qui sont éprouvés pendant cette période de pandémie, afin que tu les relèves et tu les guérisses. Te prions pour ceux qui sont dans le deuil et qui peinent à se relever, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux qui sont tout simplement dans la solitude. Nous te prions pour nos autorités afin que tu leur donnes la sagesse dans la gestion de cette pandémie. Veuille protéger, soutenir, renouveler le personnel soignant dans cette mission périlleuse, mais combien utile, en faveur des plus petits de tes frères et sœurs. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, dans les annonces d'aujourd'hui, voici quelques points importants que je relève et que je partage avec vous. D'abord, partant de confinement, votre offrande est à apporter par virement bancaire. Et le numéro de compte est sur ECHO, notre bulletin paroissial, mais aussi sur le site de l'Église, www.eeu.be. En le visitant, vous trouverez le numéro de compte. Que le Seigneur bénisse votre engagement à soutenir l'Église dans l'accomplissement de sa mission auprès des petits, des frères et des sœurs de Jésus-Christ, comme il nous l'a rappelé ce matin. La deuxième annonce concerne les réunions. Nous ne pouvons pas encore nous retrouver en présentiel, mais quand cela ne tienne, nous aurons nos réunions par visioconférence. Je rappelle à ceux qui se sont inscrits que cet après-midi à 14h, par visioconférence, nous aurons notre parcours bêta. Et qu'au courant de la semaine, le jeudi prochain à 19h, nous aurons aussi études bibliques, comme chaque semaine, par visioconférence. Alors si vous désirez prendre part à l'une de ces réunions, veuillez prendre contact avec le pasteur qui vous transmettra le lien Internet pour avoir accès à ces rencontres, au moins les deux que j'ai annoncées ici. Période de confinement, nous avons pensé à notre fête de Noël. Nous allons fêter différemment des autres années. Donc il y a une équipe de préparation à cette fête de Noël qui rappelle à tous les contributeurs de faire parvenir leurs vidéos au plus tard ce mercredi matin, mercredi 18, le matin, au plus tard. Il faut qu'ils aient le temps d'arranger, de mixer, de... Voilà, donc ils ont besoin de temps. Donc c'était l'échéancier le 18 novembre. Merci de tenir compte de cela. Une information que nous rappelons, le dimanche 22 novembre, il y aura consécration au ministère pastoral de Frédéric Teleux, qui était avec nous et qui a été élu pasteur à Dour. Donc c'est le dimanche 22 novembre, dans l'après-midi. Je crois que nous aurons des précisions, c'est peut-être à 14h ou à 15h. Bon, tenant compte de la situation actuelle, je ne sais pas comment les choses seront organisées. Mais si jamais il y a du nouveau, nous vous tiendrons informés avant cette date. Voilà, j'en ai fini avec les annonces. Et maintenant, nous allons recevoir la bénédiction, mais auparavant, une exhortation. Cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. C'est un extrait tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Le Seigneur revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre, car il nous a enseigné aujourd'hui. Allez avec la force que le Seigneur vous donne, rencontrez les petits, les frères et les sœurs de Jésus-Christ et osez soulager leur pauvreté. Amen. Et nous terminons par ce chant qui nous rappelle que Jésus revient bientôt, au dernier jour, arc-en-ciel 319.